cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard le 17 janvier 96.
Saisir au plan philosophique ce qui caractérise l'éthique chrétienne, c'est de saisir en premier lieu que toute cette éthique repose sur une personne, la personne de Jésus. Ce n'est pas indifférent de comprendre que l'éthique est chrétienne, c'est-à-dire du Christ, et que la vocation chrétienne est une rencontre avec le Christ. Ceci, c'est net selon les évangiles. À la différence de l'éthique fondamentalement humaine qui repose sur une expérience et la responsabilité de l'homme, et l'éthique religieuse qui repose sur la découverte du Dieu créateur, il y a là quelque chose de tout à fait nouveau. Analogue à ce que nous voyons pour l'éthique socratique. On a fait la comparaison entre Socrate et le Christ. Il y a quelque chose de juste. On pourrait faire la comparaison avec d'autres aussi qui ont fondé une certaine éthique. Et là, ce serait intéressant au point de vue purement historique. Je passe très vite, hein, mais c'est important et intéressant. Ce serait comme une introduction. Des éthiques qui reposent sur des fondateurs. Une éthique qui repose sur une loi donnée par Dieu. Une éthique qui se découvre à partir de nos responsabilités. C'est important pour nous de discerner cela tout de suite. Il est évident que l'éthique chrétienne ne repose pas sur un livre, ne repose pas sur une loi, puisqu'elle est le dépassement du livre, elle est le dépassement de la loi. Et elle repose sur la révélation d'une personne, sur le don de cette personne. À ce moment-là, il y a vraiment quelque chose de semblable à Socrate. Mais l'éthique de Socrate ne se dit pas socratique, vous voyez dans quel sens je veux le dire. Socrate rappelle à l'homme, connais-toi toi-même. Donc Socrate ne se donne pas comme modèle. Socrate montre que il est mené par une voix intérieure et que cette voix intérieure lui fait comprendre ce qu'il doit faire. Mais il ne se donne pas comme exemple. On l'a pris comme exemple, surtout dans l'éthique stoïcienne, mais déjà dans l'éthique d'Aristote. Mais l'exemple là n'est pas un principe, c'est pas Socrate qui est source. crois, bien souligner cela, parce que ça nous fait mieux comprendre ce qu'il y a de tout à fait caractéristique à l'éthique chrétienne. Jésus se donne comme modèle, au moins symbole, montre qu'il s'agit de suivre le Christ. Et les premiers chrétiens ont très bien compris cela. Suivre le Christ. Et Jésus dit lui-même, suis-moi. Socrate n'a jamais dit, suis-moi. Il a dit qu'il créait une amitié, c'est pas la même chose. Donc, il y a là quelque chose de très particulier, que la personne du Christ joue ce rôle de modèle et de source. De modèle, il s'agit de suivre. De source, il s'agit d'être conjoint à lui. Il est source d'une vie nouvelle. Là, on peut prendre avec beaucoup de force la parole de Jésus. Je suis la voie, la vérité et la vie. Je crois qu'aucun fondateur de morale, d'éthique, n'a dit ça. Je suis la voie, la vérité, la vie. La voie, il s'agit de le suivre. La vérité, il s'agit d'être lié à lui, en conformité. Et il est source, la vie. C'est quand même très unique, ça. Et c'est ce qui caractérise cette morale chrétienne. Elle est la morale d'une personne. Et ceci est possible parce que cette personne reconnaît quelle est la vérité. Quel est Dieu. Quel est Fils de Dieu. Il n'est pas seulement l'envoyé. unité avec une personne, unité avec un vivant, unité avec quelqu'un qui nous attire, unité substantielle de vie. Il est la tête. Unité libre de choix. Unité avec Jésus qui s'est... Jésus dira. Accepter de bâtir, d'accepter la taille du Père, ce n'est pas moi. Dans une éthique normale, humaine, ça n'existe pas, ça. Quand je suis arrivé à un âge où je suis capable de me diriger, donc un âge où j'ai la prudence, j'ai la maturité, je gère mon bien, comme on dit aujourd'hui, hein. Gérer son capital, et j'évite qu'un autre me gêne. qui est exprimée par la pierre angulaire. J'entre dans un tout qui est le temple de Dieu dont je fais partie. Alors c'est ça qui est très curieux et qui est à première fois bouleversant. C'est que cette éthique chrétienne apparaît à la fois comme surhumaine et infrahumaine pour le philosophe. Surhumaine parce qu'elle me fait vivre au rythme du Christ. C'est une vie surnaturelle. C'est une vie surhumaine. J'ai un capital de vie nouveau. Les autres, puisque j'ai la tête du Christ. Et c'est une survie éternelle. Donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, ça. J'ai une vitalité chrétienne qui dépasse toutes les autres vitalités. Elle est surnaturelle. Elle est divine. Elle est éternelle. C'est prodigieux, ça. Et en même temps, c'est l'éthique qui doit me faire accepter d'être entièrement mu par un autre. Normalement, on est à une certaine maturité, ma prudence et ma sagesse pratique. Et donc, je me dirige, je me conduis. Là, il faut devenir comme des tout petits, comme des pauvres. Il faut se dépouiller de soi-même. Il faut mourir à soi. Ça, c'est typiquement chrétien. Et c'est absolument, apparemment, en contradiction avec le développement normal de l'homme moral, de l'éthique humaine. On verra que c'est pas en contradiction. Et ici, premier aspect, je prends ce qui m'est donné immédiatement et qui caractérise cette éthique. Première réflexion. Jésus dit « Suis-moi » et puis l'apôtre montre ses types d'unité. Et l'éthique chrétienne va non seulement me montrer cette exigence d'être en va me faire comprendre que cette totale dépendance qui est la taille du Père sous le sceau de l'Esprit Saint, cette taille du Père est en vue de la fécondité. Des fruits. Le Père taille pour que je porte des fruits. La comparaison de la vigne. La taille de la vigne. Il n'y a pas un arbre qui est aussi taillé que la vigne. Regardez bien. Un pied de vigne, c'est remarquable. On ne voit que la taille. Il y a des nœuds, des nœuds, des nœuds, des nœuds. Que devient Freud? Il n'y a plus rien. Enlevez tous les nœuds à la vigne. Qu'est-ce qui reste? C'est les vieux pieds de vigne. Et quand on met des vieux pieds de vigne dans un feu, hein, ça craque, ça craque, ça craque, ça craque tout le temps. C'est les nœuds qui éclatent. D'après C'est le dernier arbre, vous comprendrez, hein. Parce que regardez comme le pied de vigne se gère lui-même, hein. Ah non, non. C'est le vigneron qui le gère. Dès qu'il pousse un tout petit peu, on le coupe. Immédiatement. Il redevient un arbre sauvage. Et comme les psychologues font de nous des sauvages. Un arbre sauvage, sans fruits. Avec peut-être de belles feuilles. Mais ce ne sont que des feuilles. Je crois qu'il faut saisir ça avec netteté. Après Freud, vous comprenez? Parce qu'après Freud, c'est scandaleux de prendre comme exemple de vie la vigne. C'est scandaleux. On a l'impression que Freud n'a jamais vu un arbre, hein, jamais vu un pied de vigne. Parce qu'il aurait fait réfléchir quand même. Hein. C'est taillé, taillé, taillé. Alors le refoulement de la sève dans un pied de vigne, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose comme refoulement. Et c'est ça d'où jaillit la fécondité. Oui, je crois qu'il est important de saisir, au plan philosophique, cette sorte de contradiction que nous voyons dans la vie chrétienne, l'éthique chrétienne. sur ça. Moi, je crois que c'est la première chose qu'on doit faire. Ce qui est du reste très beau. Regardez avec un œil nouveau. Un œil philosophique. Un regard philosophique. Ces grandes comparaisons qu'on prend tout le temps. Et qui caractérisent notre unité avec Jésus. Unité substantielle de vie. Unité libre. Unité qui exige de nous de nous soumettre, de mourir à nous-mêmes pour porter beaucoup de fruits. Et en définitive, cette éthique promet la béatitude. d'unité parce qu'il exprime de la manière la plus forte ce qui caractérise mes liens avec Jésus. Ce n'est plus l'un propriété de l'être, c'est l'un fruit de l'amour d'amitié, fruit de l'idée de vie. Façon très particulière, la mort.